16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël et j'en suis sûr, Historiquement vôtre va vous requinquer Fissa, grâce notamment à l'entrain communicatif, la joie de vivre inextinguible de mon fidèle acolyte qui fait preuve d'une énergie débordante, puisqu'elle me disait à l'instant en s'asseyant à ce micro.
Bon, bah allons-y.
Bonjour Stéphane Bern, la forme ?
Mais bien sûr, je suis ravi de vous retrouver Mathieu, pour deux heures d'histoire décomplexée, la rencontre de trois personnages qui ne vivaient pas à la même époque, qui n'auraient donc jamais pu se croiser, mais qui pourtant avaient un point commun.
Oui, aujourd'hui nous allons partir à la découverte de personnages très secrets dont le métier est d'observer les autres. Si je vous demande par exemple Stéphane, comment est votre blanquette ? Vous me répondez ?
Bah, ça dépend de vos goûts parfois.
Non.
Je mets des échalotes parce que moi j'aime bien, mais on ne peut pas remplacer par des oignons.
Mais non Stéphane, vous me dites, Mathieu, ma blanquette est bonne, sans hésitation, car aujourd'hui, nous vous parlons de trois grands espions de l'histoire.
Ah oui, c'est vrai. Alors, Mata Hari, vous connaissez Mata Hari ?
La plus célèbre.
La plus célèbre d'entre elles.
Mais pas forcément la meilleure, on va le voir.
Non, ce n'est pas très bonne espionne, mais elle dansait très bien.
C'est déjà
elle
ça.
Elle était lascive. Et Ian Fleming, ça vous dit quelque chose ?
Bah c'est le papa de James Bond.
Exactement.
Et sans oublier le plus doué, le plus génial de tous les espions, puisqu'on est finalement assez peu à réaliser à quel point il en est un, je vous parlerai de Mark Zuckerberg, James Bond potelé, qui sait tout de nous.
Et au sommaire aussi, Mathieu, eh bien, Clémentine Portier-Caldenbach, qui nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde.
Et aujourd'hui, ça va être chaud, je crois. Bonjour Clémentine.
Oh oui, oui et non, c'est plutôt le feu et la glace, car aujourd'hui, je vous emmène rencontrer Léon Trotsky, l'un des leaders de la Révolution russe, naturellement, chef de l'armée rouge, et puis Frida Kahlo, une des plus grandes artistes du XXe siècle. Eh bien, saviez-vous qu'ils avaient eu une liaison, Trotsky et Frida Kahlo ? Oui,
mais
c'est pour ça que je vous disais le feu et la glace, le Mexique, au Mexique, je vous raconterai ça tout à l'heure. Une liaison brève, mais tout à fait intense.
Une nuit, quoi. Ça n'a pas duré très
longtemps
au Mexique.
Non, plus que ça. Six mois, quand même. Six mois d'une liaison assez torride.
Très bien. Alors, lui aussi, vous savez, il va...
Il est torride ?
Oui, enfin, j'imagine. En tout cas, il va puiser...
Fais ce qu'on peut.
Il va puiser aux sources des choses qui alimentent notre quotidien.
C'est vrai.
Et c'est David Castello-Lopez. Bonjour.
Bonjour. Chaque année, on change d'heure, deux fois.
Ouais.
Moi, je me suis demandé depuis quand, pourquoi on fait ça, d'où ça vient, voilà.
À vos côtés, l'exceptionnel Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour les amis. Bien, hommage à l'un des plus grands espions. On parlait de Ian Fleming et donc de James Bond. J'espère que vous avez le poignet souple et le rythme pour pouvoir faire des cocktails, puisque vous parlerez du célèbre cocktail de James Bond et de l'alcool qui le compose, à savoir la vodka. Mais d'où vient-elle cette vodka ?
Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'alcool.
En revanche, ça ne fait pas longtemps que vous en avez bu, Stéphane. Enfin, la semaine passée, il a fini par remporter une édition du quiz qu'il oppose chaque après-midi à Clémentine. Bon, alors, certes, c'est une question autour de la taille de la plus grande saucisse du monde qui lui a permis de gagner, mais quand même, Stéphane sera-t-il capable de rééditer l'exploit ? Nous le découvrirons vers 5h-10 dans Burn to be Alive. Mais tout de suite, Stéphane, il est temps de chausser votre monocle pour nous raconter le destin fascinant de notre première espionne du jour, Mata Hari.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Danseuse, courtisane, espionne, Mata Hari aura cristallisé tous les fantasmes au début du XXe siècle. Pour démêler le vrai du faux, voici son portrait par Stéphane Bern.
Oui. Je vous parle aujourd'hui d'un agent double, d'une agente double, devrait-on dire, qui pendant la Première Guerre mondiale travaillait pour l'Allemagne et pour son ennemi la France. Mata Hari, à la fois espionne et danseuse exotique. Nous sommes un soir de l'automne 1905, il y a foule au musée Guimet. Tout le gratin parisien est venu assister au spectacle de la danseuse Mata Hari, qui présente une sélection de chorégraphies indonésiennes. Sur scène, la belle jeune femme brune, le teint hâlé, apparaît. Elle porte quelques voiles qui ne cachent pas grand-chose et un bustier orné de pierreries. Quand Mata Hari commence à se déhancher au son de la musique, les hommes politiques, les financiers, les hauts gradés militaires présents dans la salle ont le souffle coupé. Bientôt, ils se disputent les faveurs de la belle danseuse. Cela ne désarçonne pas Mata Hari, bien au contraire. Depuis son adolescence, elle a compris que la meilleure façon d'obtenir ce qu'elle veut est de plaire aux hommes. Mais revenons aux origines. Mata Hari est née en fait Margareta Zell, le 7 août 1876, dans le nord des Pays-Bas. Elle mène une enfance heureuse et choyée jusqu'à ses 13 ans. Et puis tout s'écroule quand son père ruiné abandonne sa famille. Deux ans plus tard, nouvelle tragédie, sa mère, Margareta, meurt épuisée par le chagrin. À 16 ans, Margaretha, qui est donc le nom de la future Mata Hari, quitte son école et après avoir eu une liaison avec le directeur de l'école, un homme marié de 51 ans, elle s'installe chez son parrain à La Haye, où elle rencontre Rudolf MacLeod, un officier de l'armée néerlandaise avec qui elle se marie. En 1897, le couple s'embarque vers les Indes orientales, où Rudolf MacLeod est affecté. Et hélas, tous deux s'entendent plutôt mal. Et MacLeod trompe sa femme à tout bout de champ. Pour vous dire, il lui transmet même la syphilis.
Ça, c'est pas très cool.
Non, c'était un cadeau non prévu. Quant à Margaretha, elle est dépensière, trop avide de luxe et de parure, sans compter qu'elle n'est pas insensible aux œillades que lui lancent de nombreux messieurs. La relation bancale entre les deux époux prend fin définitivement avec la mort tragique de leur jeune fils. Oui, je vous ai promis...
C'est pas très joyeux.
C'est un peu une vie tragique. Margaretha regagne les Pays-Bas et entame une transformation radicale. En 1905, se faisant appeler Mata Hari, œil du jour en malais, elle fait irruption dans la société parisienne comme danseuse exotique. Elle nourrit sa légende, se disant la fille d'une prêtresse hindoue, et feuilleuse, pourrait-on dire, puisqu'à la fin de chaque spectacle, elle termine quasiment nue.
C'est un peu ça qui fait sa renommée.
Bien
au départ,
sûr.
Parce qu'à l'époque,
oui.
C'est très novateur.
Oui, exactement. C'est comme les oignons, elle enlève une couche. Non, mais c'est vrai. On disait feuilleuse à l'époque.
Et ça fait pleurer aussi ou pas?
Non. Elle en a fait pleurer plus d'un. Pendant des années, la danseuse fait sale comble dans les grandes capitales européennes. Elle gagne des fortunes qu'elle dépense aussitôt. Mata Hari passe d'homme en homme avec un intérêt pour les plus riches qui la couvrent de cadeaux. Fourrures, bijoux, vaisselle, meubles précieux. Autant le dire, la danseuse vit à leur crochet et une nuit avec elle coûte extrêmement cher.
Combien ?
C'est-à-dire, elle promet d'abord, puis ensuite... Enfin, je ne peux pas tout... On n'a pas les tarifs. Ça dépendait des fortunes de
bon,
ces messieurs.
Je demande à notre invité, qui sera mieux informé que vous.
Mais non, mais vous êtes odieux cet après-midi. Non, mais ça dépendait des hommes,
bien
évidemment.
Bien sûr, bien sûr. Plus j'étais riche, plus elle demandait.
Mais oui, à vous, elle aurait demandé bonbon. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Mata Hari retourne aux Pays-Bas, où l'un de ses protecteurs... Le colonel néerlandais Van der Capellen l'installe dans une jolie demeure à La Haye. Peu de temps après, Mata Hari reçoit la visite d'un autre habitant du quartier, Karl Kramer, un officier qui lui propose d'intégrer les services de renseignement allemands. En échange, Kramer promet à Mata Hari de régler ses dettes qui sont nombreuses. Mata Hari accepte. Ainsi commence sa carrière d'espionne sous le nom de code H21. Mais pourquoi les services secrets allemands s'intéressent-ils particulièrement à Mata Hari ? Déjà, parce qu'elle parle plusieurs langues, ce qui est un atout non négligeable pour collecter des renseignements. Et surtout, Mata Hari est originaire des Pays-Bas, une nation qui est restée neutre dans cette Première Guerre mondiale. Grâce à son passeport, la jeune femme peut circuler librement dans toute l'Europe. Pour commencer, elle se rend à Paris, où, reprenant ses spectacles, elle côtoie de très près... Si vous voyez ce que je veux dire, Mathieu.
Je vois très bien, oui.
Des hauts gradés alliés venant d'Italie, de Belgique ou encore d'Angleterre. L'amour de Mata Hari pour l'uniforme finit par intriguer le contre-espionnage anglais et français qui la mettent sous étroite surveillance. Mata Hari est une demi-mondaine en relation avec des personnes haut placées. On la soupçonne d'être allée en France pour une importante mission au profit des Allemands, établit un rapport militaire anglais en 1916. Le capitaine Ladoux, qui commande l'espionnage et le contre-espionnage français à cette époque, propose tout de même de l'engager. Mata Hari ne dit pas non. En contrepartie de ses services secrets, elle exige la coquette somme de 1 million de francs.
Ah, voilà des tarifs.
Ce qui représenterait 2,5 millions d'euros d'aujourd'hui. Vous imaginez, gourmande. Hein ? Finalement, son salaire sera bien moins élevé. Et pour cause, le capitaine Ladoux sait que Mata Hari travaille pour les Allemands. S'il embauche cette espionne, il faut le dire, elle est naïve et pas très efficace. C'est uniquement pour faire passer de fausses informations à l'armée ennemie. Mais à Berlin, on est vite au courant du recrutement de Mata Hari par les services français. La pauvre croit habilement gruger les espions des deux pays, mais en fait, ce sont eux qui se servent d'elle. En décembre 1916, Mata Hari est à Madrid. L'ambassade de France la surveille. Mais notre espionne n'y voit que du feu. Entrant en contact avec l'état-major allemand, elle échange plusieurs messages cryptés qui confirment son rôle d'agent secret. Le dernier date du 28 décembre. Matahari, je cite, « demande qu'on lui envoie tout de suite par télégramme par l'intermédiaire de sa domestique Anna Lichens à Rusmunt 5000 francs au comptoir d'escompte de Paris pour être remis au consul de Hollande. Mais son amour pour l'argent va lui faire commettre une erreur fatale. »
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Vous nous parlez cet après-midi, Stéphane, de l'espionne Matahari, l'une des plus célèbres, mais visiblement pas la meilleure. Pendant la Première Guerre mondiale, elle travaille comme agent double pour la France et l'Angleterre. Et Matahari est sur le point de se faire attraper.
Oui, Mathieu, vous avez raison. Peu après son arrivée à Paris, au début de l'année 1917, Matahari est arrêté à son hôtel par le commissaire Priolet. Il informe Matahari qu'elle est accusée d'espionnage et complicité d'intelligence avec l'ennemi. Matahari est mise sous les verrous à Saint-Lazare, une prison pour femmes. Ses conditions de détention sont très dures. Elle est isolée, n'a aucun vêtement de rechange, son lit est plein de vermine et la nourriture est infecte. Il y a des jours comme aujourd'hui, on ose nous donner une eau de riz si sale que les chiens la refuseraient, écrit-elle au substitut du commissaire du gouvernement en juillet 1917. Son procès s'ouvre au même moment. Matahari est accusée d'avoir causé la perte de 50 000 soldats alliés. Mais la justice française n'a aucune preuve. Au contraire, il semblerait plutôt que Matahari ait été une espionne insignifiante et qu'elle n'ait révélé aucune information sérieuse aux Allemands. Manipulée par les Français et par les Allemands, Matahari n'alimentait au final ses différents commanditaires qu'en fausses nouvelles. Alors pourquoi veut-on sa tête à tout prix ? Parce qu'en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, rien ne va plus. Les mutineries se multiplient sur le front. L'opinion publique en colère réclame des têtes. Il faut donc faire un exemple. Comme je le disais, l'accusation manque de preuves. On s'attaque donc à l'immoralité de Matahari. André Mornay, substitut du procureur, dresse un portrait terrible de cette, je cite André Mornay, Salomé sinistre qui joue avec la tête des soldats français. Ses nombreux amants et son mode de vie dissolu suffisent à condamner Matahari à la peine capitale. Le 15 octobre 1917, dans l'aube triste du matin, Matahari, vêtu de noir, la tête couverte d'un voile, se tient droite face au peloton d'exécution dans les fossés de Vincennes. Dans un dernier sursaut de courage, elle refuse le bandeau qu'on lui propose. En joue ! Les militaires lèvent leurs armes. Plusieurs coups de feu résonnent et à 41 ans seulement, Matahari, l'œil du jour en malais, les ferme pour toujours.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane, je suis très excité. Nous avons en studio avec nous un de nos invités préférés,
oui.
Nos chouchous. Pour parler de Matahari, on est avec Bruno Fulini, bonjour.
Bonjour.
Ah oui Bruno, vous êtes écrivain, historien, maître de conférences à Sciences Po. Vous êtes l'auteur, entre autres, de parce que comme vous avez écrit sur tous les sujets et qu'il y a un livre qui sort par semaine, Matahari, les vies insolentes de l'agent H21 chez Gallimard, très belle biographie illustrée. Insolente, on peut dire, c'est l'adjectif qui caractérise le mieux Matahari.
Oui, il y a de l'insolence en elle parce qu'il y a à la fois ce côté très altier, vraiment superbe, et puis un mépris de toutes les convenances, y compris de la plus élémentaire, qui est le respect de la vérité.
Oui, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu inconsciente aussi pour elle-même ? Parce qu'elle n'a pas l'air de maîtriser ce qu'elle fait. Elle joue un double jeu. Déjà, est-ce que tout ça est vraiment avéré ? Elle joue vraiment ce double jeu,
ah,
on
oui,
le sait.
Oui, là vraiment, vous savez, on peut librement consulter les archives de l'affaire Matahari au château de Vincennes, où se trouve le service historique de la Défense. Et il y a vraiment beaucoup d'éléments précis concernant sa double carrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Matahari, c'est d'abord une artiste, c'est une danseuse. Et puis, elle croit pouvoir, dans l'univers beaucoup plus sévère du renseignement, utiliser simplement ses charmes, son brio et berner tout le monde. Or, dans le renseignement, on vérifie, on est précis, on est implacable, on est froid. Il est beaucoup plus facile de berner un riche monsieur amoureux
bien
qu'un
sûr.
Service
ça
de renseignement.
Ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est vrai, ou c'est un mot apocryphe, que quand on l'a mise en joue pour la tuer, elle a dit ce mot que je trouve admirable, c'est bien la première fois qu'on m'aura pour 12 balles.
Non, bien sûr, ça c'est un mot des titis parisiens. C'est très drôle, ça fait, c'est évidemment apocryphe, ça m'amuse beaucoup. En fait, d'après les témoignages qu'on a, il y avait une centaine de personnes qui ont assisté à l'exécution de Matahari. Elle a été extrêmement digne. Elle a été décrite par un policier comme une souveraine passant en revue ses troupes. Elle est magnifique, chapeautée de plumes, avec sa robe grise et noire en soie. Elle est impeccable. C'est sa dernière représentation d'un certain point de vue. Et donc ce mot est très drôle, mais malheureusement apocryphe.
Oui. Ce que je n'ai pas compris, c'est comment, et c'est ça qui paraît romancé, et c'est ça qui paraît pas crédible, c'est à quel moment les services secrets viennent la chercher. Pourquoi elle
En fait, c'est elle qui
parle plusieurs langues, d'accord, elle n'est pas la seule à parler plusieurs langues.
Mais elle fréquentait dans un lit, donc, les confidences sur l'oreiller. Vous savez, pendant toutes
les
guerres...
Mais elle était la seule... C'était le seul profil...
Non, mais elle voyait plus de monde que d'autres. Hein. Non, elle voyait beaucoup de monde, en fait.
Et puis elle avait accès, par sa notoriété de danseuse, qui remontait à bien avant la guerre, 1905, elle avait accès à une partie du personnel politique. Dans la liste de ses anciens amants, on va trouver plusieurs ambassadeurs, on va trouver un ancien ministre de la guerre, on va trouver quand même du beau monde.
Beaucoup de gradés aussi, beaucoup d'uniformes.
Alors les uniformes, c'est un petit peu différent. En fait, elle les recrute, je dirais, en se promenant dans Paris. Paris est une ville de pères missionnaires et on a des, là aussi, ce ne sont pas des fantasmes, on a des rapports de filature faits par le contre-espionnage et donc on suit littéralement Matahari à travers les rues de Paris. Et chaque fois qu'elle croise un officier français ou allié, la petite œillade assassine et ça se termine à l'hôtel. Le rythme est impressionnant.
Elle draguait
dans la rue.
On allait sur le rythme. Moi, je veux connaître ce rythme.
On est à environ 1 à 2 officiers par jour quand elle est en activité.
Il y a de
l'abattage.
Effectivement.
Et Stéphane le disait avec raison, on recueille du renseignement sur l'oreiller. Elle n'est pas du tout la seule à le faire. C'est extrêmement classique dans le monde du renseignement à l'époque et peut-être aujourd'hui aussi.
Un moment d'extase et vous donnez tous les renseignements militaires. Vous verrez ça.
Tiens, voilà les codes de la bombe atomique, chérie.
On continue à parler de nos espions de l'histoire et de Matahari en particulier avec notre invité Bruno Fillini sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'histoire ni d'espion, c'est notre thème aujourd'hui dans Historiquement vôtre. Chaque après-midi, 3 personnages, un point commun aujourd'hui, celui d'avoir été donc des espions. On est avec Bruno Fillini, on parle de Matahari. Matahari, c'était une espionne, c'était aussi une star. Est-ce que ce n'est pas complètement paradoxal d'être à la fois célèbre et espion ?
Normalement, les espions sont des gens discrets, mais voilà, on ne remarque pas. Mais il est arrivé aussi que les services de renseignement utilisent des femmes très connues pour leur beauté, qui avaient un bon carnet d'adresses. Miss Tinguette, par exemple, a travaillé pour les services secrets français.
Miss Tinguette ?
Parce qu'il y avait un prince allemand, un prince prussien, un prince de Hohenlohe, qui était très amoureux d'elle. Et donc, on l'a autorisée à le rejoindre en Suisse. Et elle a ainsi glané également sur l'oreiller des renseignements qui ont été extrêmement précieux. Donc c'est relativement classique. Alors c'est vrai que dans le cas de Matahari, c'est particulier puisque c'est à partir de 1905 une star mondiale. Et d'abord, il y a ce nom extraordinaire qui va devenir littéralement une marque. Il faut dire que la pauvre s'appelait quand même Marguerite Gertrude Zell. Donc pour
avoir du succès, c'est moins vendeur.
Et même sur scène, c'est pas extraordinaire. Matahari, vous l'avez dit, l'œil du jour, en fait, c'est la métaphore qui désigne le soleil en malais. Matahari, ça sonnait remarquablement bien, c'est facile à retenir. Elle a fait de ce nom une véritable marque. Elle a créé un style vestimentaire aussi, avec ces voiles qui tombaient les uns après les autres, avec aussi ces cupules balinaises en onyx qui lui servaient de soutien-gorge et qui vont être beaucoup imitées. C'est avec Matahari qu'on assiste, à ma connaissance, pour la première fois, au phénomène des faux sosies. Vous savez, les gens qui se travestissent en stars, comme on a des fausses Marilyn aujourd'hui, on a eu des fausses Matahari, du vivant même de Matahari.
Elle aurait pu en envoyer une au mois d'octobre 1917 pour se faire fusiller.
Il y a une légende là-dessus.
On a fusillé la fausse.
C'est comme le maréchal Ney, c'est comme Landru, comme tous ces grands personnages. Il y a toujours évidemment une théorie du complot. En réalité, on a même le rapport d'autopsie. C'est bien elle qui a été fusillée.
Mais ce qui est fascinant, Bruno Fillini, c'est qu'elle est une star. Vous dites Matahari, tout le monde connaît Matahari. On ne connaît pas forcément les détails de son histoire.
La fin tragique a encore ajouté...
Oui, je pense, mais qu'est-ce qui explique ? Elle avait un truc en plus, c'est-à-dire à la fois comme effeuilleuse, beaucoup plus que comme espionne d'ailleurs.
C'est une femme évidemment d'exception. Elle s'est rendue célèbre comme danseuse sans savoir danser, simplement parce qu'elle est la première à avoir l'idée de terminer son numéro entièrement nue. Et elle fait ça avec un prétexte religieux. Elle réussit à faire croire qu'elle a été initiée aux danses sacrées dans l'Inde.
C'est du flan.
Elle n'a jamais mis les pieds en Inde. C'est la fille d'un chapelier néerlandais. Elle n'a jamais mis les pieds en Inde.
Elle n'est même pas allée au cours d'un voyage, rien du tout.
Elle est allée aux Indes néerlandaises, qui est ce qu'on appelle l'Indonésie. C'est l'insule Inde, ça n'a strictement rien à voir. C'est d'abord l'insule Inde est majoritairement musulmane. Ça n'a rien à voir avec l'hindouisme, le tantrisme et toutes ces choses-là. Et toute sa vie, elle a forgé comme ça sa légende. Elle a créé ce personnage. Elle est devenue ce personnage. Et effectivement, cette silhouette, ce nom, tout le monde en a entendu parler. Et c'est très trompeur. Et ça va être aussi la providence des scénaristes, des réalisateurs. Si elle est présente dans nos esprits, c'est parce qu'elle a quand même été incarnée par des comédiennes comme Greta Garbo, ou Jeanne Moreau, ou Maruschka Detmers, ou Sylvia Christel. Elle va donner lieu à une production après sa mort qui fait que, d'un certain point de vue, elle n'est jamais morte en réalité. Son exécution l'a fait passer à un stade de légende finalement, et elle devient un personnage de fiction, un personnage de la culture populaire. Même son nom est devenu un nom commun. Aujourd'hui, chaque fois qu'on arrête une espionne, on va vous parler de la Mata Hari russe, la Mata Hari chinoise, une nouvelle Mata Hari.
Il y a deux choses qui me taraudent. C'est d'abord, sa faiblesse, c'était l'argent. Hein. On peut le dire, c'est son moteur. C'est l'argent. Mais pourquoi la fusiller? Parce que franchement, elle a même raté sa carrière d'espionne. Il n'y avait pas de quoi la fusiller, si ce n'est pour faire un exemple.
Disons que d'abord, c'est une toute petite espionne. Hein. Recueillir du renseignement sur l'oreiller, c'est vraiment le degré numéro un de l'espionnage. Elle n'a pas de responsabilité dans les services de renseignement, ni en Allemagne, ni en France.
Elle a fait tuer personne.
Ensuite, on est en période de guerre. Il faut bien se rendre compte qu'elle n'est pas la seule à espionner, qu'elle n'est pas la seule à être fusillée. On est dans un contexte où il y a des millions de morts et où l'espionnage, eh bien, est considéré comme un crime gravissime, quelle que soit l'importance relative des renseignements communiqués. D'ailleurs, on ne connaît pas exactement le contenu des renseignements. Mais simplement communiquer à l'ennemi que telle unité belge est en permission et part au front demain, c'est une façon de condamner à mort de nombreux soldats. Si les Allemands ont cette information, eh bien, ils vont disposer les nids de mitrailleuses en conséquence, et ça va tout de même avoir des conséquences.
Oui, Stéphane, je vous trouve un peu léger sur les trahisons en temps de guerre, quand même. Hein.
Et donc
Non, mais
c'est une accusation. C'est pas très grave, elle a donné deux, trois secrets. Mais... Oui,
c'est une accusation très grave que vous portez contre moi, alors que je vous rappelle que cette pauvre Mata Hari, elle donnait des fausses informations, et aux uns et aux autres.
Bon, elle donnait des informations. Elle donnait des informations. C'était surtout des informations de peu d'importance, mais elle donnait des informations. Et vous savez que dans le monde du renseignement, eh bien, vous n'êtes pas censé travailler pour deux pays à la fois. Sûr. Vous n'êtes pas censé berner tout le monde. Et à partir de là, évidemment, ça ne pouvait que mal se passer. Oui. Il y a par ailleurs un énorme point d'interrogation. C'est que Mata Hari, qui faisait de l'espionnage un petit peu comme au temps du Chevalier Déon, quoi, dans l'alcôve, ne s'est pas du tout rendu compte qu'on avait changé d'époque. Et en particulier que les Français disposaient d'un outil nouveau qui est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est l'ancêtre de la NSA, de tous les systèmes d'écoute d'aujourd'hui. On interceptait les communications. Et vous l'avez dit, les messages allemands permettent de l'identifier. On comprend très vite qui est H21, les messages sont au féminin, il est question de virements bancaires qu'on peut vérifier. Et la vraie question, c'est de se demander si les Allemands ne l'ont pas un petit peu grillé, ne l'ont pas un peu sacrifié, précisément pour qu'elle soit fusillée. Au fond, elle n'était pas allemande, elle n'apportait pas des renseignements irremplaçables. Les Allemands avaient très mauvaise presse parce qu'ils avaient fusillé un certain nombre de femmes dans la Belgique occupée. Alors, c'était intéressant de conduire les Français à arrêter une femme déjà célébrissime et à l'exécuter parce que, malheureusement, c'était la règle à l'époque. Espionnage en temps de guerre, c'est la peine de mort qui est encourue.
En tout cas, je renvoie à la lecture de votre biographie « Mata Hari, les vies insolentes de l'agent H21 » chez Gallimard, ainsi que le titre de votre dernier ouvrage paru, Landru, l'élégance assassine aux éditions du Rocher. Merci Bruno Fulini d'avoir
merci
été
beaucoup,
avec
merci.
Nous.
Europe 1, historiquement vôtre.
À suivre, qui sait, on découvrira peut-être un jour que sous couvert de nous entraîner dans les coulisses de l'histoire, elle était espionne à la solde de la Corée du Nord. Il faut dire que certaines de ses phrases ressemblent beaucoup à un langage codé.
Comme chacun sait, cum verum initio inter zelanda confosus.
Clémentine Portier-Kaltenbach espionne pour nous l'intimité des grands de ce monde. Et ce qu'elle découvre n'est pas souvent joli joli.
Des mycoses et des pustules.
À bon. De
ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre.
Oui,
c'est ça. Raconter l'histoire sans se la raconter.
Ah, c'est bien ça.
Nous parlons de trois personnages qui n'étaient pas censés se rencontrer, n'avaient pas rendez-vous dans le studio d'Europe 1, et pour autant, ils ont un point en commun.
Matahari,
Ian Fleming, à votre avis
L'espionnage, ça vous dit... c'est l'espionnage.
L'espionnage.
C'est l'espionnage,
exactement.
Mais là, on entre dans une partie de l'émission.
Oui, c'est une espionne.
C'est une espionne pour nous. Elle espionne pour nous l'intimité des grands de ce monde. Et aujourd'hui, une belle histoire d'amour au Mexique. Vous nous entraînez au Mexique, retrouver ce bon vieux Trotsky.
Oh, une histoire d'amour, c'est plutôt une histoire de fesses. Hein. Vous l'allez voir,
encore
messieurs.
Mieux.
Mais je croyais que vous, la prude, vous n'aimiez pas raconter ce genre de choses.
Mais moi, je suis comme Matahari, hein, je suis en service commandé, je fais ce qu'on me demande.
C'est bien.
Alors, je ne suis pas très loin d'ailleurs de vos histoires d'espions, parce que quand Trotsky a été banni d'Union soviétique en 1929, par Staline, eh bien, il était considéré comme un traître et un espion. Donc, partout où il allait, il était devancé par cette réputation et c'était très risqué pour les pays qu'il accueillait. Ce qui fait que de la minute où il a quitté l'Union soviétique en 29 et entre 29 et 37, eh bien, il ne cesse d'errer de pays en pays avec son épouse Natalia Sedova. Et malheureusement, chacune de ses escales se termine par une expulsion. Parce que pour un pays, c'est quand même un cadeau empoisonné. C'est de la nitroglycérine d'avoir Trotsky chez soi. Et donc, 20 décembre 1936, les Trotsky étaient à Oslo, en Norvège, et ils sont également expulsés. Alors, au Mexique, oui, on est bien loin d'Oslo. Diego Rivera, vous savez, ce grand peintre muraliste mexicain, mais qui est surtout un communiste convaincu et dont Trotsky est l'idole sur Terre, eh bien, il va intervenir auprès du président mexicain Carreras en lui disant « Écoutez, il faut absolument qu'on reçoive les Trotsky, ils ne savent plus où aller. » À l'époque, le Mexique est une terre d'asile pour les antifascistes, donc Trotsky va venir au Mexique. On va juste lui demander de s'engager à ne pas se mêler des affaires politiques du Mexique. On est quand même un peu méfiant. C'était ça la peur principale, c'est qu'il fasse un coup un peu à la Lénine. Autrefois, vous savez, l'histoire du wagon plombé, on avait peur qu'il vienne semer la mauvaise parole dans le pays. Donc, après 20 jours de mer, le bateau norvégien qui s'appelle le Rut, ou le Rut, hein, ça ne s'invente pas, alors sur lequel voyagent les Trotsky, arrive dans le petit port de Tampico le 9 janvier 1937. Et ce jour-là, Diego Rivera, le peintre donc, qui l'a fait venir, qui aurait vraiment souhaité venir l'accueillir, est hospitalisé, donc il ne peut pas se rendre sur place tout seul, et il envoie sa femme. Et sa femme n'est autre que Frida Kahlo. Elle a 30 ans, c'est déjà une artiste peintre reconnue, et elle est mariée depuis 8 ans à Diego Rivera, qui lui a 21 ans de plus qu'elle, hein, quand même. Frida, vous voyez tous comment est Frida Kahlo, naturellement. Surtout, elle est redevenue très, très à la mode ces dernières années. On la voit partout. Il y a tout un merchandising autour de sa figure et de ses œuvres. Elle est très belle. Elle a une beauté assez particulière parce qu'elle a des ascendances à la fois indiennes, espagnoles, allemandes. C'est quand même un étrange mélange. Bon, on le sait, depuis l'âge de 19 ans, elle passe sa vie au lit parce que quand elle était enfant, elle a eu la polio. Mais en plus de cela, elle a eu un très grave accident dans un autobus, ce qui fait qu'elle a passé de longues heures extrêmement douloureuses à peindre depuis son lit. Donc, dès qu'elle peut mener une vie normale, alors là, c'est vive la vie. Elle aime le vin, elle aime manger, elle aime le sexe, elle aime les hommes, elle aime les femmes aussi. On lui a prêté une aventure avec Joséphine Baker quand elle vient en Europe pour rencontrer les surréalistes. Alors là, arrivée du Rut, ce bateau qui arrive d'Oslo, il y a une très célèbre photo de cette arrivée. On y voit Trotsky, 58 ans, lorgné avec gourmandise sur Frida, qui n'en a que 30. Il y a sa femme, hein. il y a Natalia Sedova qui est à côté, mais c'est
oui,
pas grave.
On partage hein. tout dans le communisme.
Il vient juste d'arriver. Mmh. Ah oui, on partage tout, vous avez raison. Alors on met un train. On met un train présidentiel à leur disposition, puis deux grosses voitures américaines, et on les emmène à la Casa Azul, qui est la Maison Bleue, la fameuse maison où est née Frida le 6 août 1907 et où elle habite avec son peintre de mari. Trotsky s'y installe, il se met à travailler, promenade, excursion dans la région, il se découvre une passion pour les cactus et l'équitation, qu'est-ce que vous voulez, et puis pour Christina, la sœur de Frida. Mais progressivement, Frida va faire sa conquête. Alors, on les voit faire des promenades bras dessous, ils vont au cinéma. Mais ce qu'il aime chez elle, c'est sa liberté d'esprit. Puis aussi, elle est assez au mas, elle jure comme un charretier. C'est quand même une femme très, très libre. Il lui écrit des mots en anglais pour que sa femme, surtout Natalia, ne puisse pas les lire, un peu comme Victor Hugo qui écrit ses carnets noirs en volapük. Et puis, de toute façon, comme Diego la trompe à tour de bras, on ne peut pas dire
qu'elle est... Elle a l'habitude, sa femme.
Elle a vraiment l'habitude. Hein. Il la trompe honteusement. Mais alors, elle, ce qui lui plaît dans cet adultère, elle double satisfaction. C'est d'abord qu'elle couche avec l'idole idéologique de son mari.
Oui,
donc,
fort.
Toc, prend ça. Et puis d'autre part, elle couche avec lui à l'endroit même où son mari l'a trompée, elle, avec sa sœur. Sympa, les gars. Alors, bon, donc,
c'est quoi cette famille dont vous
parlez? Oui, écoutez, c'est caliente. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, quand Trotsky part se cacher à 100 km de là, elle les rejoint. Mais... quand je vous dis que cette aventure va durer 6 mois, donc c'est effectivement, c'est trépidant, c'est horrible, mais au bout de 6 mois, ils en ont déjà marre tous les deux, donc elle couche avec son garde du corps, et lui, fait des avances à une jeune fille du quartier. Mais alors, ils vont quand même rester proches, malgré tout, et on connaît la suite, hein, bien sûr, Trotsky qui va se barricader dans une autre maison, pas loin de la Casa Azul, une maison transformée en camp retranché, il va faire l'objet d'une première tentative d'attentat. D'ailleurs, au moment de cette première tentative d'attentat, c'est le 24 mai 1940. Évidemment, qui soupçonne-t-on? Le mari. On se dit Diego Rivera. Ah. Il a beau donner l'air d'être très cool. En fait, c'est lui qui a dû essayer de le tuer. Alors, Diego Rivera, comme il sait qu'il va être soupçonné, il quitte immédiatement Mexico, caché au fond d'une voiture, en emmenant quand même ses deux maîtresses du moment. Il faut bien avoir son petit 4 heures.
Il est caché dans la voiture aussi? Les maîtresses?
Les maîtresses étaient dans la voiture.
Dans la même voiture?
Il y en avait une qui conduisait, une qui klaxonnait, et lui, il était caché dans le coffre. Voilà, c'est ça, messieurs, s'il faut tout vous expliquer.
Alors, c'est incroyable.
Ça finit quand même très mal, parce que comme vous le savez, d'abord Diego, Frida et Diego Rivera, ils vont divorcer, puis se remarier derrière. Et évidemment, la triste fin, nous la connaissons tous, c'est que le 20 août 40, Ramón Mercader tue Trotsky à coups de piolet. Et quand même, messieurs, je voudrais vous faire savoir que les derniers mots de Trotsky ont été pour sa femme Natalia Sedova, à qui il a dit « Je t'aime ». Alors, il a dû le dire en russe, je le dis à Liuba, un truc comme ça.
Non, il y a Tibia Loubiou, il a dit.
Il y a Tibia Loubiou. Ce qui prouve qu'on peut être à la fois, comme le dit Oscar Wilde, infidèle et constant. Et en tout cas, Frida Kahlo, elle, a confié juste avant sa mort en 1954 que sa rencontre avec Trotsky avait été la période la plus heureuse de sa vie et la plus féconde. Donc c'est quand même
une histoire qui a compté. C'est la raison pour laquelle vous nous l'avez racontée. Merci beaucoup, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Merci et surtout vous restez avec nous, Clémentine, car chaque jour, vers 5h-10, vous nous aidez à vérifier les réelles compétences de Stéphane en histoire grâce à l'épreuve du quiz. Et comme il n'y a pas tous les jours des questions sur les hot dogs et les Doritos, Stéphane repart souvent bredouille.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Pour défier chaque après-midi Stéphane Bern dans l'épreuve du quiz, une historienne à l'érudition fascinante qui parvient en outre à parfaitement cacher ses préférences politiques, comme on a pu encore le vérifier dernièrement au détour d'une de mes questions. Clémentine, en 1973, Salvador Dali a peint une huile représentant Hitler se masturbant dans un champ.
C'est beau.
Clémentine Portier-Kaltenbach, tâchez aujourd'hui de ne pas vous trahir, c'est l'heure de jouer à... Bern to be alive, notre célèbre quiz. Première question, c'est la tradition, elle est pour vous Stéphane Bern. À Paris, il y a la ligne 9 du métro. Alors, pour vous Stéphane, sachez que le métro est un petit train souterrain qui permet de voyager un peu de frais, dans des conditions parfois compliquées.
Ne commencez pas.
Bref, sur la ligne 9, il y a la station Robespierre qui donne sur la rue Robespierre, vrai ou faux?
Non. C'est faux.
C'est faux.
Bah, bien sûr.
Vous avez perdu.
Qu'est-ce que c'est que cette
histoire? Alors Stéphane, un jour, je vous emmènerai, on fera un rendez-vous en terre inconnue dans le métro. Alors,
je croyais qu'il n'y avait pas
alors,
de
prenez
rue
la ligne 9 un jour, même moi je le sais. La ligne 9,
mais je connais
c'est une station bidon qui est fermée, non?
Pas du tout, il y a la station Robespierre, vous pouvez descendre, il y a la rue Robespierre, sauf que vous n'êtes plus à Paris, vous êtes à Montreuil.
Ah voilà.
Ah mais oui,
c'est de la triche.
Non mais c'est ça, je savais qu'à
c'est
Paris...
C'est-à-dire que sortie des limites de Paris, vous ne franchissez jamais le périph.
Si, mais je savais que... Oui, ok. C'est pervers.
Il est coincé.
C'est pervers. c'est que je savais qu'à Paris, bien il n'y avait pas
vous
de
avez
rue
raison.
Robespierre.
Ah non, ça contestez. C'est pas Paris.
Question,
Montreuil n'est pas Paris.
La question était sur la ligne 9, il y a une station Robespierre qui donne sur la rue Robespierre. Vrai ou faux, la réponse était vraie, vous avez faux. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. L'actuelle reine Elisabeth II est la descendante de Richard III, qui a été roi d'Angleterre de 1483 à 1485. Vrai ou faux ?
Attends, de Richard
III. Attendez, parce que là, même Stéphane a l'air d'avoir un doute.
Quel est le Richard dont on a retrouvé la dépouille dans un parking là ? C'est pas Richard III, justement ? Elle ne doit pas descendre de lui, puisqu'elle descend de roi allemand. Elle descend comment s'appelle-t-il là,
je crois qu'elle ne descend pas de Richard III.
Mais moi, je pense que non, en effet.
Vous pensez que non,
elle ne doit pas descendre de Richard III, non.
Vous pensez que non ?
Vous avez gagné !
Elle a gagné, mais le raisonnement était-il le bon ? Je ne sais pas. La question était donc, l'actuelle reine Elisabeth II est-elle la descendante de Richard III, roi d'Angleterre de 1483 à 1485 ? C'est faux. En 2012, les analyses ADN sont formelles. Ni la reine Elisabeth II, ni a fortiori ses fils et ses petits-fils le sont. Ça veut dire qu'une reine a fauté. Les résultats ont été publiés dans le magazine Nature. Ce que sous-entend cette réponse, c'est qu'elle elle est censée être la descendante de Richard III.
Non, pas forcément.
Pas forcément.
Elle n'est pas forcément parce que la transmission se fait par différentes branches collatérales.
Donc personne n'a fauté en tout cas.
De toute façon, dans les familles européennes, si on regarde l'ADN transmis par les mères, on en trouverait un petit peu l'ADN commun chez.
Bien sûr,
ils sont tous mariés entre eux.
Que de la mère.
Ouais. Oui, ça c'est sûr. Non, toutes les
histoires. Merci, docteur.
Donc, bonne réponse un peu par hasard, mais bonne réponse quand même de Clémentine. Voilà. Question numéro 3 pour vous, Stéphane.
Un peu par hasard, non mais dis donc,
En 1962, juste avant de signer l'embargo des États-Unis envers Cuba, John Fitzgerald Kennedy a fait un stock de rhum cubain à la Maison Blanche, vrai ou faux ?
De cigares, Stéphane.
Mais ne l'orientez pas !
Oh, mais on joue tous les deux, vous voulez nous remonter l'un contre l'autre, mais ça n'est pas possible.
Vous êtes un vrai pervers, Mathieu Noël.
Pourquoi ?
Il faut que les gens le sachent.
Mais les gens le savent déjà.
Ah bon, d'accord. non, parce qu'il n'aime pas le rhum.
Vous avez gagné !
Bien aidé par Clémentine, vous avez gagné. Effectivement, c'est faux, il n'a pas fait un stock de rhum, JFK, mais il a fait un stock de cigares. Il a mis 12 000 cigares cubains de côté, c'était ses favoris. Je vous rappelle que fumais-tu. Vous connaissez cette histoire de cigares ou vous l'avez dit au hasard ?
Non, je connaissais cette histoire de cigares, mais je ne pensais pas qu'il s'agissait de 12 000 cigares. Je suis très impressionné.
C'est pas rien.
Je pensais qu'il avait mis quelques dizaines de boîtes de côté.
Oh ben non, tu es président des États-Unis, tu fais les choses à fond. Hein. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. En Italie, on peut boire du vin issu de vignes qui appartenaient à Léonard de Vinci. Vrai ou faux ?
Oh oui, bien sûr, puisque son père avait une très grande propriété... en Toscane, et certainement faisait du vin, donc bien sûr, oui. Et puis en plus, ça serait un bel argument commercial pour un agriculteur
J'ai vu
aujourd'hui.
Des bouteilles de Chianti où il y a l'effigie de Léonard de Vinci.
Donc je réponds oui.
Vous avez vu Léonard de Vinci ? Ah, vous l'avez vu ? Vous êtes contenté de le voir. Eh bien, écoutez, c'est une bonne réponse de Clémentine Portet-Caleret qui remporte le quiz, Stéphane. Je suis désolé.
Je suis ravi pour elle.
Je suis désolé. Alors, mais un mot de Léonard de Vinci, il était amoureux de vin. On lui offre un vignoble en 1499 pour lui payer le tableau La Seine. Tout est détruit en 1943 sous les bombes des Alliés, mais des passionnés trouvent les racines de vignes intactes et se lancent dans l'aventure.
Oh, belle histoire.
Merci beaucoup, Mathieu.
Vous me remerciez de vous avoir fait perdre ?
Oui, parce que, voyez-vous, je crois avoir perdu avec un peu de panache sur Robespierre.
Le panache était au rendez-vous aujourd'hui, même si on a découvert que vous franchissiez rarement le périph'.
Si, je suis allé à Montreuil plus souvent
une
que
fois.
Vous.
Europe 1,
historiquement vôtre. Alors, l'histoire, ni d'espions. C'est notre fil conducteur cet après-midi. J'ai commencé par évoquer la légendaire Mata Hari. Et maintenant, je vais vous parler du papa de James Bond, qui était lui-même agent secret. Le non moins célèbre Ian Fleming. Et vous, Mathieu ? Quel espion plus contemporain vous avez choisi pour notre troisième portrait ?
Eh bien, George Orwell l'avait baptisé Big Brother dans son roman culte 1984. Sa prophétie s'est réalisée. Il y a aujourd'hui dans ce monde quelqu'un qui sait tout sur tout le monde. C'est l'inventeur de l'espionnage mou, Mark Zuckerberg, le puissantissime patron de Facebook.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui réunit chaque après-midi trois personnages de l'histoire qui n'auraient jamais pu se croiser, déjà parce qu'ils vivaient à des époques différentes, mais qui ont un point commun, Stéphane.
Oui, ce sont les espions de l'histoire, l'espoir ni d'espions. Et on a commencé par Mata Hari, voici dans un instant Ian Fleming, le père de James Bond, et vous parlerez de...
Un espion plus contemporain,
oui,
plus
oui.
sournois aussi finalement, oui. Mark Zuckerberg,
oui. hein,
quand vous
beaucoup
mettez une photo sur Facebook.
Et beaucoup plus riche que Mata Hari. Et
il a beaucoup mieux réussi que Mata Hari.
Mmh. 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Son nom est Bern, Stéphane Bern.
Ah oui Mathieu, j'aurais rêvé d'être agent secret.
Mais c'est encore possible Stéphane, il faut croire en ses rêves. En attendant, c'est notre thème du jour, l'histoire ni d'espion.
Après Mata Hari, Ian Fleming, créateur de l'espion James Bond, espion lui-même. Et plus proche de nous, Mathieu, un espion d'un genre nouveau, peut-être encore plus puissant, plus
assurément,
riche.
Assurément Stéphane, riche et puissant. Alors, c'est vrai, il n'a ni Aston Martin bourré de gadgets, ni stylo empoisonné, aucun costume smalto et on peut le dire même aucune classe. Mais pourtant, il est objectivement un bien meilleur espion que James Bond. Je vous parlerai du roi de l'espionnage moderne, légal et mieux encore consenti, Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook.
Sans oublier nos chroniques. Hein.
Bah, on ne peut pas les oublier, d'autant qu'elles sont là. Ils sont là, oui.
Parce que David Castel-Lopez, lui, il nous raconte le changement d'heure.
Exactement.
Il n'était pas question de le supprimer, le changement d'heure.
Si, 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 on en parlera également.
Ah, on en parlera également, pardon. Oui.
On a voté pour, en tout cas sur votre réseau. Là,
sur donc, Facebook.
La Commission européenne a dit que ça s'arrêterait.
Ça s'arrêterait. Ouais. Donc vous en parlez pour rien en fait.
Non, c'est bon, c'est pas quand
est-ce
que ça va
s'arrêter. C'est quand même intéressant, restez avec nous. Olivier Pouls, vous nous parlez chaque jour de l'histoire d'une recette aujourd'hui ?
Moi je vais vous parler du cocktail fétiche de notre ami James Bond, justement, le Dry Martini. Qu'est-ce que ce cocktail ? De quoi est-il composé ? Et d'où vient-il ?
Et c'est bien pour
c'est la boisson préférée de la reine.
Bah, on est content de le savoir. À l'heure du goûter, un petit martini, c'est parfait. Et puis évidemment, le mot de la fin, qui l'aura ? C'est évidemment vous, Stéphane. Chaque jour, l'histoire d'une expression.
Oui.
Aujourd'hui.
Le roi est mon cousin, cousin Germain.
Cousin Germain, c'est vrai, pourquoi on dit cousin Germain ? C'est très bizarre.
À votre avis.
Ah, bon, j'en ai vraiment aucune idée, mais vous êtes là pour ça, Stéphane.
Bah,
c'est vous
oui,
le cultivé de la bande.
Merci de me le rappeler.
Tout de suite, homme d'action, séducteur, manipulateur. Non, ce n'est pas son autoportrait que nous livre Stéphane Bern, mais celui de son alter ego anglais, Ian Fleming.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il était impossible de consacrer une spéciale espion de l'histoire sans l'évoquer, lui, le père du plus célèbre agent secret de tous les temps. Stéphane Bern vous raconte le destin hors norme de Ian Fleming.
Oui Mathieu, Ian Fleming est le créateur de James Bond, l'espion le plus célèbre de la planète. Certainement l'espion que Ian Fleming aurait aimé être. Car peu de gens savent que l'écrivain travailla lui aussi pendant la Seconde Guerre mondiale pour des services secrets britanniques. Nous sommes le dimanche 13 mars 1961. Le candidat à la présidentielle américaine, John Fitzgerald Kennedy, donne un dîner intime dans sa maison de la banlieue chic de Georgetown. Au moment du café, le sujet de Cuba et Fidel Castro, communiste et donc à l'époque ennemi des États-Unis, arrive sur le tapis. Ian Fleming, invité par JFK, qui est fan des romans de James Bond, prend la parole. Il propose une solution très loufoque, n'ayons pas peur de le dire, pour se débarrasser du problème Castro. Selon lui, il faudrait faire courir le bruit que l'atmosphère au-dessus de Cuba est devenue, suite aux essais nucléaires américains, extrêmement nocive, surtout pour les hommes à barbe. Si des particules radioactives s'y incrustent dedans, ils se retrouveraient exposés à des risques d'impuissance et de stérilité. Pour cette raison, il serait conseillé aux Cubains de se raser. L'emblématique symbole de ralliement au commandant de Che Guevara serait détruit et Fidel Castro deviendrait beaucoup moins charismatique sans sa barbe. Pour Ian Fleming, sans barbe, pas de révolution.
Pourquoi pas ?
Ça paraît absurde. Ça fait sourire le président, mais la folie imaginative de Ian Fleming obtient un certain succès autour de la table. Il faut dire que le célèbre auteur des James Bond a acquis la réputation d'être un spécialiste des affaires secrètes. Et son propre parcours au sein des services secrets de renseignement britanniques n'y est pas pour rien. Ian Fleming est né le 28 mai 1908 dans une riche famille de banquiers écossais. Il effectue sa scolarité dans des écoles renommées comme le collège pour garçons Eton. Ian Fleming, qui a du mal à y trouver sa place, se crée un personnage de dandy solitaire, caustique, passant très souvent pour arrogant auprès de ses camarades. Pour le physique, Ian Fleming... Il faut bien le dire, est gâté par la nature avec ses traits fins, ses yeux bleus.
Ah, il est beau gosse, il ne s'est pas fantasmé en
une blonde. Non, c'est vrai, il était pas mal. Au collège, il se casse le nez lors d'un match de foot, ce qui ajoute encore à son charme de mauvais garçon. Comme James Bond, Ian Fleming n'aura aucun mal a enchaîné les conquêtes féminines. Ses études terminées, après avoir appris sur les bancs de l'Académie royale militaire britannique de Sandhurst, le jeune homme a du mal à se fixer. Il est d'abord journaliste, mais estimant le salaire insuffisant pour son rang, oui. Il accepte l'offre d'emploi d'une banque de la City de Londres, ce qui lui offre un train de vie ô combien plus luxueux. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Ian Fleming est approché par le directeur du département britannique de défense navale, John Godfrey. Et il faut dire que le jeune Britannique parle couramment allemand, ce qui représente un bel atout pour l'armée.
Mais ça, vous avez noté, Stéphane, aujourd'hui, entre Matahari et lui, il suffit de parler deux, trois langues et hop, les services secrets nous contactent. Moi, je parle russe, je parle anglais. Personne ne m'a jamais contacté pour faire partie des services secrets. C'est
mais
quand
en
même
fait,
incroyable.
À l'époque, si vous voulez, il valait mieux parler allemand.
Ah ouais.
Moi, j'ai fait allemand parce que je me suis dit, en cas de problème.
Vous n'avez pas été contacté non plus.
Toujours pas.
Que vous jouiez double jeu.
Non, c'est que ça se passe mieux avec l'Allemagne.
C'est pour ça.
Et le voici donc, Ian Fleming, in the Navy. Ian Fleming revêt fièrement le bel uniforme bleu marine de l'armée royale. Il est ravi de se retrouver au cœur de l'action, même si ses missions sont loin de ressembler à celles de l'aventureux James Bond, qui, rappelons-le, n'existe pas encore. À Londres, dans un vaste bureau en sous-sol, Ian Fleming lit et rédige des notes toute la journée en compagnie d'une dizaine d'autres officiers. Nous étions tous des gratteurs de papier, se souviendra l'un d'entre eux, mais nous n'étions pas des héros. Devenir un héros, voilà pourtant ce qui fait fantasmer Ian Fleming. Promu au rang de commandant, il met au point en 1940 un plan pour contrer l'avancée de l'Allemagne nazie. Il s'agit de l'opération Ruthless, opération sans pitié en français. Ian Fleming propose de voler les codes de la machine Enigma, qui est en quelque sorte l'ancêtre de nos ordinateurs. Elle permet aux nazis d'échanger des messages dont le code secret change tous les jours. Ian Fleming soumet son idée. Feindre un accident maritime pour attirer un navire de secours allemand. Son plan est de prendre par surprise l'équipage ennemi pour s'enfuir avec leur livre de code. Mais trop risqué, l'opération ne verra jamais le jour. En 1941, il participe à l'élaboration de l'opération GoldenEye. À la tête d'une équipe, Ian Fleming veille à ce que l'Angleterre conserve le contrôle du détroit de Gibraltar. À cette occasion, il voyage beaucoup. Il se rend à Madrid, à Gibraltar, mais aussi à Tanger. Un soir, se saoulant en compagnie d'un de ses collègues, Ian Fleming pénètre en douce dans une arène dédiée aux courses de taureaux. Sur le sable, il trace un immense V de la victoire, symbole de la lutte contre l'Allemagne nazie. Ian Fleming n'est pas peu fier. Pourtant, ce sera l'un de ses seuls coups d'éclat sur le terrain. Il en sait trop sur les opérations militaires menées en Europe. Ses supérieurs ne peuvent pas prendre le risque qu'il soit capturé par les Allemands. Toute la guerre, il restera donc à l'arrière, entretenant une aura mystérieuse autour de ses activités. Beaucoup penseront d'ailleurs qu'il était un rouage essentiel du renseignement britannique. Ce qui, faut bien le dire, est largement exagéré. Après la Seconde Guerre mondiale, Ian Fleming quitte la Royal Navy et redevient journaliste. Passant un accord avec le Sunday Times qu'il emploie, il vit en Jamaïque 2 mois à l'année. C'est là-bas, en 1953, à 44 ans, qu'il écrit son tout premier roman d'espionnage, Casino Royal. Il trouve le nom de son héros, James Bond, dans un livre d'ornithologie posé sur son bureau. Bien loin de ses services secrets, le vrai James Bond est tout simplement un ornithologue spécialiste des oiseaux caribéens. Mais Ian Fleming trouve que le nom sonne bien. On note d'ailleurs le petit clin d'œil dans « Meurt un autre jour » où James Bond se fait passer pour un ornithologue. Les aventures de l'espion anglais s'enchaînent et rencontrent un certain succès en Grande-Bretagne. Mais tout s'accélère réellement en 1961 quand le magazine américain Life publie un article de fond sur le nouveau président John Fitzgerald Kennedy. Parmi ses ouvrages favoris, JFK cite « Bon baiser de Russie », cinquième opus de James Bond. Le livre se retrouve en tête des ventes et Ian Fleming devient l'un des auteurs les plus lus au monde. On a beaucoup spéculé sur les liens existants entre Ian Fleming et son héros. S'est-il inspiré de sa propre vie pour le créer, peut-être ? Et si ce n'est pas lui, qui d'autre ? Sans doute son ami Wilfred Dunderdale, chef du bureau de Paris pour le Secret Intelligence Service dans les années 30. Comme James Bond, Wilfred Dunderdale avait un penchant pour les belles femmes et pour les bolides. Ian Fleming s'est en tout cas inspiré de son entourage pour les aventures de 007. Le personnage de M serait, comme le raconte son assistant devenu ami John Pearson, directement inspiré de sa mère. Quand il était jeune, sa mère était la seule personne qui lui faisait peur. Sa sévérité, ses demandes exigeantes et son ambition sans scrupule pour que son fils réussisse se retrouvaient étrangement dans les relations entre M et James Bond. Quant au méchant Goldfinger, Ian Fleming a l'idée de ce nom après avoir rencontré un architecte, Ernest Goldfinger, qui était l'un de ses voisins au caractère particulièrement irascible. Le vrai monsieur Goldfinger, vexé par le portrait peu flatteur dressé de lui dans le roman, a même intenté une action en justice contre l'éditeur, qui préféra payer les droits d'auteur plutôt que de renommer le personnage. Certains James Bond girls seraient quant à elles inspirées de ses différentes maîtresses et même de sa compagne, Anne Charteris, avec laquelle Ian Fleming s'adonnait à des pratiques sadomasochistes.
Pourtant, dans James Bond, il n'y a pas trop de Patrice sadomasochiste.
Non,
même, hein.
Mais vous savez que récemment, on a retrouvé des lettres d'amour enflammées qui ont été d'abord retrouvées, puis vendues aux enchères en Angleterre l'an dernier, ce qui nous a permis de nous rincer l'œil en lisant toutes les lettres. Quand on regarde de plus près, on constate aussi que Ian Fleming et James Bond se ressemblent étrangement. Ils ont la même taille, les yeux bleus, ils apprécient tous les deux les œufs brouillés, le café, ont un fait particulier pour les boissons alcoolisées, les cigarettes. Rendez-vous compte, Ian Fleming fume presque 4 paquets de cigarettes par jour et il ne lésine pas sur la vodka et le gin. Je parle même pas du whisky. Ce sont d'ailleurs ces excès qui lui coûtent la vie puisque le père de James Bond meurt d'un infarctus en 1964 à l'âge seulement de 56 ans. Son héros, lui, est toujours vivant, même si son auteur est parti. N'oubliez pas son nom, Fleming. Ian Fleming.
Europe 1, historiquement vôtre.
Passionnant portrait, Stéphane, mais nous allons maintenant vérifier si ce que vous avez dit est vrai ou s'il y a eu des approximations, des imprécisions. Ah ben ça peut arriver même au meilleur, Stéphane.
Tout sort du bouquin.
Oui, ah ben alors ça va. Nous sommes avec Christian Destremau, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez justement Ian Fleming, Les vies secrètes du créateur de James Bond. Et dans quelques instants, vous allez tout nous dire, ou un peu plus en tout cas que Stéphane.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'histoire ni d'espion, c'est notre thème aujourd'hui dans Historiquement vôtre. Stéphane, vous nous avez raconté l'histoire de Ian Fleming, le père de James Bond. Et nous sommes avec Christian Destremau qui a écrit un bouquin, ça tombe bien, sur Ian Fleming.
Oui, parce que c'est un historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, fin connaisseur de la culture britannique. Et Christian Destremau, vous vous apprêtez à publier Ian Fleming, Les vies secrètes du créateur de James Bond chez Perrin. James Bond est l'espion que Ian Fleming aurait aimé être. Est-ce que c'est sa version parfaite, un peu fantasmée?
Bon, ils sont très différents. D'ailleurs, Fleming a travaillé dans les services de renseignement, notamment pendant la guerre, comme vous l'avez dit. Mais il n'est pas du tout un homme d'action. Il est trop attaché à son confort personnel, à ses clubs à Londres, à sa vie tranquille, à ses femmes, pour prendre les risques que prend sa créature. Et de plus, je vois très très mal Ian Fleming capable de tuer quiconque.
On sait que Ian Fleming n'a jamais tué personne dans sa carrière.
Ah non, jamais.
Il a toujours
jamais,
été vraiment
jamais,
un
n'a jamais, il n'a jamais, tiré une, n'a jamais tiré une balle. Enfin, il a été dans le renseignement, mais dans le côté obscur, obscur du renseignement. Oui. D'ailleurs, il faut préciser que James Bond lui-même n'est pas à proprement parler un espion. C'est un homme d'action, c'est un tueur.
C'est un tueur,
c'est
oui,
un exécutant.
C'est ça, oui, un
ce
exécutant.
N'est pas un espion, ce n'est pas un homme qui fait du renseignement.
Attendez, ça c'est intéressant. Dans la réalité, quelqu'un qui est opérationnel sur terrain, c'est-à-dire quelqu'un qui est amené à tuer des gens pour le compte d'un pays, n'est jamais celui qui prend une décision. Il n'a jamais cette capacité de décision, en fait, comme James Bond peut l'avoir.
Non seulement il n'a pas la capacité de décision, Bond est un exécutant, ouais, mais en plus, les services de renseignement séparent et distinguent très très nettement le travail de renseignement pur et l'action. Ce sont deux choses très différentes. Et d'ailleurs, durant la guerre, il y avait en Angleterre deux services bien distincts, même trois, mais enfin deux, en particulier deux services tout à fait distincts, qui se sont d'ailleurs bagarrés l'un l'autre, puisque le MI6, qui était chargé du renseignement, craignait beaucoup les hommes de l'action, pensant qu'ils allaient mettre la pagaille. Enfin, voilà. Donc il y avait des rivalités intenses, d'ailleurs terribles, il y a eu des rivalités à Londres terribles durant la guerre, Fleming n'était pas du tout dans le même métier, si vous voulez.
Mais Fleming, c'est assez étonnant, parce que vous le présentez dans votre livre comme un rebelle sans cause, une sorte de dilettante au début de sa vie. Comment il arrive à devenir le bras droit du directeur du renseignement naval ? ou c'est du copinage parce qu'ils avaient fait Eaton et Sanders.
Exactement. Ah, vous savez tout, on ne peut pas résumer ça à ça. Ouais. Il y avait ça. C'est les services secrets britanniques, avant la guerre, fonctionnaient tout à fait de manière très informelle et on recrutait par amitié, par copinage. Fleming avait certains talents. Il l'a prouvé dans son métier de journaliste. Il a prouvé d'abord qu'il avait un œil, qu'il était très, très curieux de tout. Il a fait cette mission à Moscou. Il a assisté à un procès très important dans les années 30. Et il est revenu à Londres. Il a expliqué ce qu'il avait vu en Union soviétique à ce moment-là. Il a fait une autre mission quelques années plus tard. On est toujours avant la guerre. Mmh. Et je raconte cela dans mon livre. Il revient. Il avait pris l'initiative de rapporter des préservatifs de marque soviétique pour que les services anglais puissent analyser la qualité du latex ou du plastique ou tel qu'il était fabriqué en Union soviétique. Mmh. Voilà. Et il arrive à la frontière et les gardes soviétiques trouvent ça dans ses affaires et disent c'est tout de suite confisqué. Et il a un voisin, il était avec un de ses collègues et celui-ci avait dû avaler les notes qu'il avait prises. Et Fleming lui dit, et alors son voisin lui dit, tu aurais dû avaler tes préservatifs avant de franchir la frontière. Voilà. Donc il prenait un peu des initiatives individuelles comme ça, parce qu'il était curieux de tout.
Sa vie est loin d'être un long fleuve tranquille.
Non, oui.
L'histoire des lettres avec Anne Charteris, c'est quand même incroyable, surtout que ce n'était pas n'importe qui, Anne Charteris.
Oui. Ian Fleming, les femmes, c'est une affaire extrêmement complexe. Oui. On pourra peut-être revenir là-dessus. Beaucoup plus compliqué que James Bond, je trouve.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'il était un peu misogyne ou pas du tout? C'était quoi son rapport aux femmes?
Certainement assez misogyne, mais en même temps adorant les femmes. Et les femmes l'adoraient. Surtout les femmes de la bonne société britannique qui étaient un peu lasses de leurs jeunes hommes bien élevés, un peu roses.
Lui, il était un peu rebelle, un peu
mystérieux. Lui était rebelle. Il avait, comme a dit Stéphane Bern, il avait ce nez cassé, donc il lui donnait un air un peu voyou, un peu un voyou de Hollywood. Il avait ce côté-là. Et ça marchait très, très bien avec les jeunes roses anglaises.
On a compris que ce n'était pas un homme d'action, que ce n'était vraiment pas James Bond sur le terrain. Mais est-ce qu'il était un espion important en tant qu'agent des renseignements? Est-ce que c'était un rouage important?
Il était extrêmement bien placé, si vous voulez. D'abord, le service renseignement de la Royal Navy était peut-être le service de renseignement le plus important en Angleterre au début de la guerre. C'était eux qui s'occupaient de repérer dans le monde entier où se trouvaient les bateaux, les navires allemands. Donc, ce qui était très, très, très important. Et il était l'adjoint direct du patron, de l'amiral Godfrey, qui a été un peu un modèle de M dans les livres et dans les films. Et il était l'homme à tout faire. Donc, c'était lui qui organisait les rendez-vous, qui assistait à des réunions avec les autres services secrets. Et il a été au courant, certainement, d'énormément de choses, notamment sur le programme si important de déchiffrement et d'interception des messages allemands chiffrés par Enigma, raison pour laquelle il était obligé on lui demandait de ne pas quitter l'Angleterre parce qu'il était hors de question qu'il tombe aux mains des Allemands. Mmh.
En tout cas, il y a plein de choses encore à découvrir dans votre livre. Je renvoie à la lecture justement de votre livre Ian Fleming, Les vies secrètes du créateur de James Bond, qui paraît ces jours-ci aux éditions Perrin. Merci beaucoup Christian Destremau.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
Après Matahari, Ian Fleming, notre spécial consacré aux grands espions de l'histoire continue avec un troisième personnage beaucoup plus vivant, beaucoup plus contemporain, Mathieu. Quelqu'un qui a profondément renouvelé, selon vous, le métier de l'espionnage.
Oui Stéphane, on a connu l'espionnage, le contre-espionnage. Nous sommes désormais entrés avec lui dans l'ère de l'espionnage consenti. Vous avez un compte Facebook, Stéphane?
Absolument.
Voilà, et bien c'est comme si vous aviez installé volontairement une petite caméra au-dessus de votre lit en disant au MI6, allez-y, rincez-vous l'œil, sauf que l'espion s'appelle pas James Bond, mais Mark Zuckerberg.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, c'est une spéciale histoire ni d'espion. Après les personnages de Matahari, Ian Fleming, vous savez le papa de James Bond, Mathieu, vous nous faites découvrir un autre profil d'espion plus contemporain, plus sournois aussi, et dont nous sommes tous quelque part les victimes consentantes.
Désolé mesdames, le temps des espions sexy à la James Bond est révolu.
Aujourd'hui, l'espion se doit d'être indétectable, d'une neutralité physique absolue. Il ne peut donc plus se permettre d'être élégant, musclé et beau gosse. Il est largement préférable qu'il ait un physique lambda, un t-shirt lambda surmonté d'une bonne tête de con. Stéphane, je vous présente Mark Zuckerberg.
Ah, je croyais que vous parliez de moi.
Stéphane, vous n'êtes ni espion, ni milliardaire.
La bonne tête de con, je pensais que c'était à moi.
Non, je parlais de ce bon vieux Mark Zuckerberg, le meilleur espion de son époque. Le plus riche aussi. Ils ont changé, vous allez voir, les milliardaires depuis Rockefeller. Aujourd'hui, si tu n'as jamais vu, tu croises Mark Zuckerberg au Starbucks et tu le vois chercher des pièces dans ses poches pour payer un latte. Tu sors ta CB, tu dis direct au serveur, allez, c'est pour moi, fiston, tu me rembourses. Saura quand tu auras fini tes études. Car oui, Stéphane, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, a beau peser plus de 74 milliards de dollars, il s'habille chez Gap et ne porte même pas de Rolex.
Oh non.
Si, Stéphane. Et si ça vous dépasse, c'est que vous n'avez rien compris à la philosophie de cet entrepreneur au grand cœur qui déclare, je cite, « Mon objectif n'a jamais été de créer une entreprise, mais de bâtir quelque chose susceptible de changer le monde. » Comment ? Eh bien en permettant à ce qu'il y a de meilleur en l'homme de s'exprimer, en nous permettant de nous fédérer au travers, par exemple, des fameux groupes Facebook comme l'Amicale du Welsh, plus de 15 000 membres tout de même, la Fédération des Convaincus de la Terre Plate, 73 000 membres, sans oublier le groupe Si toi aussi t'en as marre des gens qui disent « Allez au coiffeur », auquel je me suis abonné en 2011 dans une démarche que je pensais alors on ne peut plus subversive.
Moi je suis chez les Mordus du Tekel. C'est vrai, il y a un groupe, les Mordus du Tekel.
Oui. En tout cas, c'est la magie de Facebook, le plus grand réseau social au monde, deuxième site internet le plus visité derrière Google, qui compte plus d'un milliard de membres actifs à travers la planète. En voulant changer le monde, Mark Zuckerberg s'est donc créé au passage, on l'a dit, une fortune personnelle estimée à 74 milliards de dollars, faisant de lui la huitième fortune au monde. Mais c'est pas le principal. Non, 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 non. Il dit, je cite, « En termes simples, ah oui, il nous parle comme à des abrutis, hein. Il sait qu'on n'a pas tous fait avoir comme lui. Je reprends. En termes simples, sous-entendu bande de brêle, chez Facebook, nous ne construisons pas de services pour gagner de l'argent. Nous gagnons de l'argent pour construire de meilleurs services. Oh, qui a osé mettre une musique de pipeau en régie ? Petits insolents, va. Autant pour nous, Marc. Non, je t'avais pris pour un de ces capitalistes assoiffés de profit. Que je suis sot, tu es en fait un philanthrope. Un philanthrope pas agaçant du tout, puisqu'à l'âge de 13 ans, alors que la plupart d'entre nous galèrent en LV2 pour dire « Las tapas de Gonzalo está muy bueno », sauf Castelo López qui parle parfaitement toutes les langues, lui, il parlait déjà trois langues, dont le mandarin et le grec ancien. Heureusement, cette fulgurante intelligence, tu allais la placer au service du bien en créant à Harvard en 2004 l'ancêtre de Facebook nommé FaceMatch et dont le but, hyper philanthrope et pas du tout sexiste, était de juger qui était sexy ou pas parmi les étudiantes d'Harvard. Des photos permettant de les classer de la plus belle à la plus moche.
Que les filles, que les filles.
Et que les filles, évidemment. Devant le succès, mais aussi le tollé de ce site, Harvard coupa alors sa connexion Internet et menaça d'expulsion le gentil Mark, qui se souvint alors de son but initial, changer le monde. Ce qu'il a fait avec un réseau social moins clivant que FaceMatch et que vous connaissez tous, Facebook. Depuis 2005, Mark y consacre toute son énergie sans jamais penser à son confort personnel, dit-il. Ah c'est bon donc certainement dans un souci d'efficacité de service que Mark s'offre à 27 ans une maison de 7 millions de dollars pour une surface totale de 1524 mètres carrés.
C'est un petit peu petit.
Oui, non, mais pour les gens qui ne vivent pas dans une ancienne abbaye, c'est pas mal.
Non,
pas mal.
Mais surtout, à mon avis, il n'habite pas toute la maison.
Ah
parce
si,
que...
il habite là. Et il a choisi cette maison parce qu'elle est proche des nouveaux bureaux de Facebook, la baraque, toujours dans un souci de productivité tourné vers ses utilisateurs. Car oui, je le rappelle, Mark est simple. Alors que certains de ses copains milliardaires passent leur week-end à laver leur costume Armani à coups de champagne shower déversé par des travailleuses du sexe ukrainienne, lui, il se contente d'aller chez Zara. Il dit « Si je porte toujours la même sorte de vêtements, c'est pour une raison très simple. Mon souci constant de simplifier mon existence au maximum afin de pouvoir me concentrer à fond sur la meilleure façon pour moi de servir la société. » Mathieu Ricard sort de ce corps. Oui, vraiment, Stéphane, on pourrait croire à l'écouter que Mark Zuckerberg est à ça de tout planter pour partir en retraite spirituelle dans le Tibet. Mais méfions-nous, car si Mark a un côté Mathieu Ricard, il a aussi un côté Dr. No, le petit saligo. Des années durant, naïfs et insouciants, nous n'avons rien vu venir. Ignorant la fameuse loi qui dit que si c'est gratuit, c'est toi le produit, nous avons partagé sur nos profils Facebook des centaines de photos parfois embarrassantes, de beuveries entre collègues, de queue leu-leu honteuse. Oui, oui, oui. Nous avons dévoilé sans pudeur, pensant que seuls nos amis proches avaient accès à tout ça, tout ce qui constitue notre identité. Ce qu'on aime, ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on mange.
Quelques huîtres accompagnées de Porto.
Sans penser qu'au-delà du cercle de nos abonnés, Marc et ses sbires voyaient tout, enregistraient tout, même la fois où David a pissé dans le Yucca. Surtout, Facebook a tout stocké, même quand on a effacé. En 2019, on commence enfin à se poser la question, mais que fait Facebook avec toutes ces informations qu'on lui livre ? Mark Zuckerberg fait l'objet de plusieurs accusations, notamment celle de n'avoir pas suffisamment protégé les données des utilisateurs. Des communications internes entre les hauts responsables de Facebook nous révèlent que Mark prévoyait non seulement d'utiliser une application Android pour suivre la localisation de ses utilisateurs à partir de leur smartphone, mais également de transmettre des données sur les utilisateurs de Facebook à des sociétés qui vendent des services de rencontres, ainsi qu'à des organisations qui souhaitent les cibler avec des publicités politiques. Voilà pourquoi, Stéphane, vous avez reçu tant de spam vous invitant à découvrir le site de rencontre Adopte un Duc, le mythique de ceux qui veulent se taper de la particule et pas du roturier. Quant à Castelo Lopez, la pudeur m'interdit de citer ici le contenu des offres promotionnelles qu'il a reçues pour rejoindre le club SM God Ceinture et Papier Bulle. Vous l'avez compris, Facebook nous cible de manière diaboliquement précise. Aucun de nos goûts, aucune de nos perversions n'échappe au tamis de l'algorithme. Non les gars, c'est pas la peine d'effacer l'historique, ça aussi il l'a récupéré. On est foutus, y a plus qu'à oublier.
Avec un petit coup de rouge.
Par exemple, allez. Stéphane, membre du groupe Tekel Passion.
Mordu des Tekels, c'est la partie la plus intime que je révèle de ma personnalité sur Facebook.
Oui. Si en êtes-vous sûr?
Ah oui, je révèle rien d'autre. Alors, en tout cas, merci Mathieu, c'était passionnant ce récit de Mark Zuckerberg. 99% vrai, donc il y a 1% de faux, c'était l'histoire des étudiantes sexy sous la douche.
Et non, ça, malheureusement, c'est vrai. Tout est vrai. C'est comme ça que ça a démarré, cette belle aventure. Oui.
Ça l'a aidé à conclure, en fait.
Oui, mais oui, bah, depuis, il est toujours avec la même. Je crois qu'il est toujours avec la même compagne depuis l'époque de ses études.
Europe 1, historiquement vôtre.
Le plus drôle avec le passé, c'est que souvent, il nous dit beaucoup de choses sur notre présent.
Vous devriez noter toutes ces formules. Vous pourriez faire livre d'aphorismes, un almanach, un jour une pensée par Stéphane Bern.
Non,
mais c'est vrai.
Pas autant au sérieux que vous. Oh,
Philippe
Mathieu.
Bouvard l'a fait. Mais c'est vrai, l'histoire sert aussi à ça, éclairer notre quotidien, d'où ces trois rubriques qui ponctuent chaque jour notre émission, Stéphane.
D'un côté, on a le cocktail vodka martini de James Bond avec Olivier Pouls.
À l'heure du goûter, idéal, si vous rentrez de l'école avec les enfants.
Voilà, moi je vous ferai d'où ça vient de dire que j'ai des cousins germains.
Vous nous ferez d'où ça vient, c'est pas très français tout ça. D'ailleurs, Stéphane, vous êtes censé incarner le français dans cette émission. Ouais, moi je vous ferai d'où ça vient, cousin germain. Vas-y, bon.
Ouais, cousin. La moquerie est facile. La moquerie est très très facile.
C'est vrai.
Je vous ferai une chronique extrêmement brillante sur les origines de cousin germain, mais pour l'heure, les origines du changement d'heure avec David Castelo Lopez.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est une rubrique de notre émission que j'affectionne particulièrement, nonobstant le caractère chelou de l'individu qui la porte. Un individu dont les choix de sujets étranges, comme par exemple les portes-containers, obligent Stéphane Bern, quand il les découvre, à aller au bout de ses capacités d'acteur.
Ah, j'ai hâte.
David Castelo-Lopez, vous nous révélez aujourd'hui les origines du changement d'heure.
Tout à fait. Alors moi, vous savez, je suis un fétichiste du passé. Je pense que c'est pour ça que vous m'avez embauché. J'aime bien connaître les dates, les chronologies. J'aime bien que mes souvenirs ils soient bien rangés par année, tout ça. Et pour que ça marche, il faut des repères. Et c'est pour ça que les fétichistes du passé comme moi, on adore les événements qui reviennent à intervalles réguliers, comme les jours fériés, comme Noël, mais aussi comme le changement d'heure. Parce que ce qui se passe, c'est que le changement d'heure, quand il arrive, il convoque automatiquement dans notre tête tous les souvenirs liés aux autres changements d'heure le passé. Oh, tu te souviens du changement d'heure en 97 quand papa avait renversé la tarte au citron? Trop marrant. Et le changement d'heure en 2002 quand on avait tué un petit chat en écoutant Étienne Dao. Oh, c'était tellement marrant. Mais moi, je me suis rendu compte d'un truc quand même, c'est que je pensais que je savais pourquoi on changeait d'heure, alors qu'en fait, pas vraiment. On m'a toujours dit, ouais, c'est pour économiser de l'énergie, mais en fait, je crois que j'avais jamais vraiment compris. Mais je suis sûr que tous les gens à cette table sont plus intelligents que moi, sauf peut-être deux ou trois, mais enfin, est-ce que vous savez l'expliquer bien?
Oui.
Alors essayez.
Le changement d'heure, c'est pour que le soleil tombe plus vite en hiver. La nuit arrive plus tôt. Et donc, il faut recaler les horloges pour qu'on passe pas 3 heures dans la nuit, par exemple. C'est ce que je veux dire. J'ai très mal expliqué. Stéphane, vous voulez pas essayer? Parce que là, aussi mal expliqué le changement d'heure.
C'est pour que notre rythme personnel soit plus en phase avec les
D'accord,
rythmes.
D'accord, mais pourquoi ça économise de l'énergie?
Mais il a pas fini sa phrase. Bon.
Peut-être parce que du coup, comme ça, le jour se levant plus tôt, on n'a pas besoin d'allumer les lumières.
Exactement.
Et on aboutit à une vraie explication. En fait, je vais l'expliquer parce que du coup, j'ai pris le temps de vraiment l'expliquer bien. Le plus facile, c'est quand même d'imaginer qu'on est en été.
Enfin, on imagine.
Si on changeait pas d'heure en plein été à Paris, en gros, le soleil, il se lèverait à 5h, il se coucherait à 21h. Or, la plupart des gens, entre 5h et 6h, ils dorment. Et donc, ils n'ont pas besoin de la lumière du soleil. En revanche, entre 21h et 22h, ils ne dorment pas. Et donc, ils allument la lumière en changeant d'heure. On perd une heure de soleil à 5h du matin, mais on s'en fout parce qu'on dort. Et en revanche, on en gagne une le soir. Et du coup, on n'allume pas la lumière et on économise une heure d'ampoule allumée dans toute la France.
Ce qui est fou, c'est que j'avais mieux compris avec l'explication de Paul.
C'est pas mais bon, quand même, c'est brillant comme idée hein, pour économiser de l'énergie. Et donc, moi, je me suis demandé de quand elle datait. Ah, eh bien, elle date de 1895. Et c'est un entomologiste néo-zélandais qui l'a eu. J'ai déjà parlé dans cette chronique d'un entomologiste. Stéphane, est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est?
vous n'écoutiez pas Stéphane?
Si, mais...
Enfin, il a parlé l'autre jour d'entomologiste.
Mais, vous...
c'est mais enfin,
mais, alors oui. Vous,
mais enfin, mais je n'en ai aucune idée. Enchaînez rapidement.
Un entomologiste, quelqu'un qui étudie les insectes.
Bah oui,
combien de fois il va falloir que je parle d'entomologiste dans cette chronique pour qu'on sache ce que c'est. Cet entomologiste, il s'appelait George Hudson. Et s'il voulait avoir une heure de jour en plus le soir, c'était tout simplement pour avoir plus de temps pour étudier les insectes dans la nature. Mais les premiers qui ont appliqué le changement d'heure à l'échelle d'un pays tout entier, ce sont les Allemands pendant la Première Guerre mondiale pour économiser du charbon de façon à pouvoir garder plus d'argent pour casser la gueule aux Français. Même si hein, finalement, on sait que ça n'a pas marché. Ils ont eu 700 000 morts de plus que nous. Et en plus, ils ont perdu. Même s'ils sont quand même un peu vengés, hein, bien comme il faut, quelques années après. Dans la foulée, tous les alliés de l'Allemagne l'ont fait. Puis l'Angleterre, puis la France. Bon, et puis là, ça a été abandonné, puis remis, puis re-abandonné. Et remis en 76 pour économiser du carburant au moment du choc pétrolier. Voilà, bon, des petits allers-retours comme ça. Mais ce que je trouve intéressant, moi, en revanche, c'est de se demander si vraiment ça fait économiser de l'énergie. Et bien, en fait, c'est pas sûr du tout. Il y a aucune étude qui a pu prouver de façon définitive que l'heure d'été pouvait vraiment faire économiser de l'énergie dans tous les cas. Imaginez par exemple qu'il fait très chaud là où vous êtes et que vous êtes riche, alors vous avez de l'air conditionné chez vous. Et bien certes, avec l'heure de soleil que vous gagnez entre 21h et 22h, vous pouvez aller vous promener au parc, mais si jamais vous décidez de rester chez vous, et bien vous allez mettre l'air conditionné parce que le soleil n'est pas couché et donc il fait plus chaud.
Ah oui.
Or, l'air conditionné, ça consomme vachement plus qu'une ampoule électrique. Et dans ce cas-là, l'heure d'été, et ben ça fait que vous avez dépensé non pas moins, mais plus d'énergie.
Donc, le serpent se mord la queue, Stéphane.
Voilà, oui. Donc autant vous dire qu'il y a de plus en plus de gens.
Et puis avec le réchauffement climatique, on risque d'allumer plus facilement.
Mais voilà, et donc en fait, c'est de moins en moins. Et en plus, les ampoules électriques, elles consomment de moins en moins. Donc, voilà. Donc autant vous dire qu'il y a de plus en plus de gens qui disent qu'il faut arrêter avec le changement d'heure. D'autant plus qu'il y a des études qui montrent que changer d'heure, ça fait qu'on dort moins. Or, dormir moins, on le sait, ça provoque plein de trucs nuls, comme par exemple le décès par arrêt cardiaque ou suicide. C'est une vraie étude. Hein. Il y a plus d'arrêt cardiaque et de suicide les lundis qui suivent le changement d'heure que les lundis normaux. Bon, et si je suis honnête, la Commission européenne a même annoncé que le changement d'heure, il allait s'arrêter. Normalement en 2021, ça a été reporté plusieurs fois, mais moi ça me fait un peu de peine parce que j'aurais pu ce repère auquel accrocher mon fétichisme des chronologies.
En tout cas, si vous avez tout écouté, vous pouvez tout comprendre en allant au bout de la réécouter. Moi je vais la réécouter pour être sûr de l'explication. Voilà, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr. Oui. Merci David.
Pour tous ceux qui, comme Stéphane, ont décroché en direct.
J'ai pas décroché.
Vous avez
pas
Il y a eu un petit ventre mou.
Il m'avait prévenu, il a dit vous allez voir, là, ça va pas être intéressant.
Et bon. Il n'avait pas menti. Olivier, vous nous avez en tout cas magistralement expliqué, de manière plus concise encore que Castello-Lopez, cette histoire du changement d'heure.
Ça m'énerve.
On pouvait le faire en 30 secondes et non pas en 7 minutes, mais on a bien rigolé. C'était passionnant. Olivier, on vous retrouve pour la recette du jour, une recette idéal pour le goûter,
on
parle de vodka martini dans notre spécial sur les espions.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'histoire ni d'espions, c'est notre thème du jour dans Historiquement vôtre. Lui, pas besoin d'espions pour deviner de quoi est constituée son alimentation. Il suffit de regarder son ventre de profil.
Du jambon, de l'oignon, souvent de la saucisse.
C'est ce que les optimistes appellent un bon vivant et les gastro-entérologues un bon client. Olivier Poul, vous êtes notre expert en bonne chair et aussi en boissons alcoolisées, puisqu'aujourd'hui, pour notre spécial espion, vous nous parlez d'un cocktail fétiche de James Bond.
Et si je vous dis « shaken and not stirred »
Il faut le secouer, mais pas le mélanger.
Exactement.
Petite le shaker.
Olivier, et c'est une émission d'équipe. Ici, on s'entraide. Votre point fort, c'est la bouffe, c'est clairement pas la langue. David, à côté, va nous le dire.
Shaken but not stirred.
Thank you, man.
Quel accent british fabuleux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire shaker, secouer, et non pas à la cuillère. C'est la manière dont doit se préparer l'officiel cocktail Dry Martini, cocktail que l'on devrait probablement à un barman anglais en 1904 dans un bar français, figurez-vous, et qui est le cocktail emblématique réclamé par James Bond dans pratiquement tous les films et dans nombreux de ses livres dès 1953. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cocktail ? Le type qui l'a inventé n'est pas allé très loin quand même, c'est pas beaucoup cassé le cul.
Il n'y a pas grand-chose dans le...
Ben non, il y a trois éléments. Il y a du vermouth, de la vodka. Alors, à l'origine, c'était du gin, mais James Bond le réclame à la vodka et une olive.
Et le martini, il est où ?
Ben, le martini, non. En fait, ce n'est pas du martini. Martini est un vermouth. Qui existe depuis les années 1860. Mais le nom du cocktail n'a rien à voir avec la boisson martini.
C'est comme un Long Island Iced Tea. Moi, je prenais ça parce que je pensais qu'il y avait de l'Iced Tea dedans. Ben rien du tout. Il n'y a pas d'Iced Tea dans le Long Island Iced Tea. Vous le savez, ça, Stéphane ?
Non, je savais bien.
Même un tout petit peu.
Bah, non, dans la vraie recette, il n'y en a pas.
Et donc, c'est quel vermouth qu'on utilise ?
Alors, normalement, à l'origine, c'était un vermouth italien qui est dans l'esprit de ce qu'est le martini. Le martini, c'est un vermouth, mais vous pouvez aussi utiliser du Noik Prat, par exemple. Le vermouth, c'est un vin. C'est un alcool à base de vin dans lequel on rajoute en général du sucre, du caramel et de l'alcool. Le niveau d'alcool est un peu plus élevé que le vin. Mm-hmm. Donc vous allez prendre vermouth. Il y en a beaucoup. Et oui, alors c'est justement parce que normalement c'est un dry cocktail, donc il doit être sec. Donc il y a très peu de vermouth. Il y a une dose de vermouth pour 6 doses de vodka.
Oula.
Vous allez mettre tout ça dans un shaker avec des glaçons.
Et après, il ne vise plus très bien, James Bond, quand même.
Bah, pourtant, ça a l'air de fonctionner chez lui. Alors, j'essaye aussi régulièrement. Jusqu'à présent, ça va, ça ne se passe pas trop mal. Donc, vous mettez ça
vous
dans un...
Vous essayez quoi ? De viser juste ?
Non, pas de viser juste.
Donc là,
vous
nous révélez que vous faites des séances de tir après l'émission.
Non.
Après avoir mis de... Je n'ai pas très bien compris, Olivier.
Non, je teste le dry martini.
Ah oui.
Oui, avec mon smoking, tout ça, tranquille. Mais après, moi, je ne vais pas tirer, hein. Je reste tranquille à la maison. Et donc, vous checkez ça, vous filtrez les glaçons et vous rajoutez une olive. Voilà, ça, c'est la manière dont James Bond boit ce fameux cocktail. Et alors, c'est un cocktail qu'on doit aussi beaucoup à la vodka, parce que sans vodka, pas de dry martini façon James Bond. Et alors, la vodka, là, pour le coup, c'est un alcool qui, figurez-vous, a été inventé en 1431 par un moine dans l'abbaye de Chudov, et à l'origine, c'était tout simplement une distillation de céréales. Alors la vodka a connu une très grande histoire en Russie, puisqu'elle a été interdite pendant, je crois, 7 ans, entre 1914 et 1921. Il y a eu une prohibition également en Russie, période durant laquelle on s'est mis à faire de la vodka clandestine, et donc est arrivée la mode de distiller à peu près tout et n'importe quoi, notamment de la patate. Il faut savoir que la vodka n'est pas un alcool de pomme de terre à l'origine, c'est un alcool de céréales, et qu'aujourd'hui, évidemment, de la vodka, on en trouve dans le monde entier.
Et la vodka qu'on trouve dans le monde entier, c'est de la vodka qui est faite à base de quoi ?
Ça peut être des céréales, comme du blé, de l'orge, du maïs. Ça peut être de la mélasse de betterave, ou ça peut même être de la pomme de terre, mais ça, c'est des vodkas très très bas de gamme. En général, la bonne vodka, c'est de la céréale, blé, orge ou maïs, distillée à 96 degrés, et ensuite adjonction d'eau pour redescendre le niveau d'alcool autour de 40 degrés, voilà. Et puis aujourd'hui, il y a évidemment toutes les modes de vodka aromatisés à ceci ou à cela, mais l'authentique, la vraie, la bonne vodka, elle est pure, c'est un alcool de blé, d'orge ou de maïs.
Eh bien, Olivier, on a appris beaucoup de
vermouth.
On
a appris plein de choses.
Sur la vodka, mais avec modération, on le rappelle quand même.
Évidemment.
Hein. C'est rare de parler de vermouth.
C'est trop rare. C'est vrai.
En tout cas, on peut retrouver les recettes d'Olivier sur le site d'Europe1.fr.
Si Olivier Pouls excite nos papilles, Stéphane Bern lui lustre nos neurones chaque jour vers 6h-10. Vous nous dévoilez, Stéphane, l'origine d'un mot ou d'une expression qu'on emploie tous les jours. Au programme cet après-midi.
Dans un instant, je vais vous raconter l'histoire des cousins Germain.
Et là, fatalement, l'auditeur ne peut que rester.
Absolument.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre. Cette émission se termine toujours en feu d'artifice par la chronique de Stéphane Bern. Le mot de la fin, Stéphane, chaque jour, l'histoire d'une expression.
Oui, vous avez été nombreux à m'écrire et à me demander...
ça fait rire tout le monde tout de suite, c'est marrant.
Excellente blague, Stéphane, continue.
Alors, en me disant, mais d'où vient l'expression « les cousins germains » ?
Bah oui.
C'est vrai, d'où ça vient les cousins germains ? Enfin, l'expression « cousins germains ». D'abord, sachez que cela n'a aucun rapport avec nos amis germaniques. Les Allemands, pour une fois,
n'ont rien à voir
avec tout ça.
Alors, pour être bien clair, les cousins germains, ce sont les personnes de notre famille avec qui on a un grand-parent en commun, et issus de germains, les personnes avec qui on a un arrière-grand-parent en commun.
En fait, Mathieu, tout est une question d'étymologie. D'une manière générale, germanus vient du latin qui signifie « qui est du même sang ».
Ah.
Germain est utilisé depuis le XIIe siècle, et le mot vient de germaine, qui signifie germe. Il donnera en espagnol hermano et hermana pour dire frère et sœur.
Illumination dans les yeux de Castellanos.
Là, j'ai ressenti un plaisir très très fort. De comprendre ça brusquement, c'est très très bien.
Quand on parle des germains pour désigner les Allemands, germain vient alors de deux mots celtes. Guerre, qui veut dire voisin, et man, qui veut dire peuple. C'est le peuple voisin.
Mais, alors Stéphane, revenons à nos cousins germains. Comment on dit dans les autres pays ?
On dit par exemple en anglais « first cousin », le cousin du premier degré.
Très simple à comprendre.
En Roumanie, on parlera de « cousin doux », D-O-U-X. Et à Montréal, on utilisera l'expression poétique de « cousin de la fesse gauche » pour désigner tout membre de la famille au sens le plus large du terme.
Ça, voilà. Vous êtes sûr ou c'est encore une lettre qu'on vous a écrite et on vous a fait une blague ?
Il n'y a pas le portugais pour une fois ?
Et le portugais, comment on dit en portugais ?
Primo direito. Primo, c'est cousin et direito, c'est direct.
Oui, vous voyez, donc
droit au but.
Germain, ça vient de germe. Germe, c'est du même sang.
Oui. J'ai compris, Stéphane, mais j'ai écouté la chronique.
Ça n'a rien à voir avec les Allemands.
Effectivement,
non, je le dis
fois.
Parce que pour une fois, les Allemands n'y sont pour rien.
Demain, Stéphane, pour nos trois personnages et notre thématique, David, très enthousiaste, avait proposé...
Claude François, Tupac, Jean-Luc Mélenchon.
Mais comme on n'a pas compris le lien, on a plutôt opté pour ces personnages qui ont fait revivre Marie-Antoinette.
Oui, trois personnages qui, dans leurs écrits ou leurs films, ont redonné vie à Marie-Antoinette. Stéphane Zweig, Jacques Demy et Sofia Coppola. On en parle demain si vous voulez. Oui. Allez, bonne soirée à tous.
Et Stéphane Zweig, on peut faire 10 émissions sur lui. Ouais. Il a eu tellement de vie et il a écrit tellement de choses fascinantes.
Il a écrit une Marie Stuart aussi.
Effectivement. Excellent. On le réinvitera. À demain Stéphane, à demain les amis. Tout de suite, c'est Europe Soir avec Thierry Dagiral. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Mathieu, bonsoir Stéphane. Rendez-vous demain, bien sûr, dès 16h pour Historiquement Vôtre. À demain.